I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Estimation est là pour BFM TV et BFM Lyon. À 21h passées de 6 minutes, Grégory Doucet aurait bien remporté la ville de Lyon. 52,6% des voix pour le candidat Europe Écologie Les Verts.
Une victoire avec panache. Plus de 50% des voix dans une triangulaire au second tour des municipales. C'était il y a plus de 10 mois, le 28 juin 2020. Une date historique pour les écologistes qui remporte plusieurs grandes villes de France, dont celle de Lyon. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va essayer de comprendre ce qui a changé depuis juin dans la troisième plus grande ville de France.
Le Rhône impétueux rugit dans sa colère, mais le flot paresseux de la douce rivière attire les amoureux, les enfants et les vieux sur les quais de ma ville.
En 1965, Jacqueline Dorian chantait la ville de Lyon, dans son cabaret parisien, la chanson galante. Elle y chantait la nostalgie de la ville de son enfance. Depuis, Lyon a grandi, s'est rénové, s'est développé, s'est mué en métropole, regroupant pas moins de 59 communes et près d'un million et demi d'habitants. L'an dernier, celle-ci s'est offerte aux écologistes, à Bruno Bernard, la métropole, à Grégory Doucet, la ville de Lyon et le fauteuil d'un certain Gérard Collomb, un novice à la place d'un vieux briscard de la politique. À 47 ans, ce Parisien exilé à Lyon accompagne les Verts depuis 2007 déjà, mais il était jusqu'ici un quasi inconnu du grand public, même à Lyon. Hymne pour la ville de Lyon, signé Richard Cochiante et Jean-Jacques Goldman, interprété par la chorale des petits écoliers chantants de Bondy. Il fallait bien ça pour saluer aussi le numéro exceptionnel des Échos Week-end sorti vendredi dernier et consacré à la troisième ville de France. On y parle notamment de l'inattendu virage écolo de Lyon. Il y a quelques jours, je vous parlais dans la story des 100 jours de Joe Biden. Ça fait maintenant plus de 300 jours que Grégory Doucet s'est installé à la mairie. Il n'avait pas tardé à se faire un nom dans les médias, comme ici sur RMC.
Merci Bonjour. D'être avec nous sur RMC ce matin. J'ai voulu vous appeler ce matin parce qu'il y a cette interview que vous donnez à nos confrères du Progrès et dans laquelle vous dites « Le Tour de France est machiste et polluant ».
Bonjour Léa Delpont.
Bonjour.
Vous êtes correspondante des Échos à Lyon. En juin dernier, vous écriviez le portrait de Grégory Doucet, le novice qui a conquis Lyon, sans cravate. C'est un peu celui qu'on n'a pas vu venir.
Les sondages donnaient quand même ainsi que les Verts favoris au municipal à Lyon, donc c'était pas vraiment une surprise. Ce qui a été une déflagration, c'est évidemment qu'il fasse tomber Gérard Collomb, mais la vague verte n'était pas non plus que lyonnaise. Il y a eu Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, Annecy. Alors à Lyon même, il y avait aussi des divisions du camp Macron qui les ont aidés, mais c'est difficile de parler d'une véritable surprise. Après, il est vrai que la victoire de Grégory Doucet a été particulièrement écrasante. Il a une majorité absolue de son groupe au conseil municipal, pas même besoin de ses alliés pour en construire une. Ce n'est sans doute pas Grégory Doucet que les Lyonnais ont choisi, ils ne le connaissaient pas. C'est les Verts et ce qu'ils représentent, la lutte contre la pollution et le réchauffement climatique. C'était plus serré à la métropole où l'issue du scrutin restait incertaine du fait de logiques d'alliance et de territoires complexes. Donc si surprise il y a eu, c'est plutôt celle de Bruno Bernard, assez confortable finalement aussi.
Pourquoi est-ce que les Verts l'ont emporté à l'époque ?
Comme je disais, ils ont bénéficié d'une adhésion de plus en plus massive des citadins au thème de l'écologie, et à Lyon particulièrement, où les marches pour le climat avaient quand même mobilisé beaucoup de monde dans les mois précédents. Il faut noter que la population lyonnaise a été fortement renouvelée depuis 15 ans, sans aucun doute du fait de l'action du précédent maire Gérard Collomb, qui a en quelque sorte préparé l'avènement des Verts. Avec sa politique d'attractivité, il a fait venir des grandes entreprises, des entreprises étrangères, des start-up qui emploient des ingénieurs, des informaticiens, des chargés de mission. Tous ces cadres sont sensibles au thème de la qualité de vie. C'est justement pour ça qu'ils sont venus à Lyon, pour en bénéficier. Et une grande partie de ces gens se déplacent en vélo électrique, veulent manger bio, font leurs courses en circuit court. Voilà.
Alors, il est diplômé d'une école de commerce. C'est un professionnel de l'humanitaire, pas vraiment un professionnel de la politique. Mais justement, quelle est sa vision de la politique ?
Alors, d'abord, il se défend d'être un novice, comme on l'a souvent qualifié. Il met en avant ses importantes responsabilités chez Handicap International, à la tête de d'équipes de plusieurs centaines de personnes à travers plusieurs pays. Donc, il sait gérer et surtout, il sait déléguer. Et c'est ça sa manière de faire de la politique, en s'appuyant sur une équipe. Il vient d'en faire la démonstration le mois dernier en confiant les rênes de la mairie à sa première adjointe pour prendre son congé paternité de 11 jours à la naissance de son quatrième enfant sans état d'âme. Il revendique vraiment de faire de la politique différemment. Sur la méthode, il a clairement la culture de la concertation. Il réunit tous les jeudis matins son MEREX, sorte de comité exécutif composé des maires d'arrondissement de la majorité. Sur tous les dossiers, il met toujours beaucoup de monde autour de la table. Pour lui, ce n'est pas une perte de temps. Par exemple, ils sont 15 dans la cellule de crise Covid et pourtant, ça déroule, c'est efficace. Il a une vision totalement participative de l'exercice de sa fonction. Après, sur le fond de sa politique, sa vision, c'est la transition écologique à tous les étages. Et s'il a bien une vision de la politique, c'est la mission de changer le monde, ni plus ni moins. Et pour ça, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Il a déclaré l'état d'urgence climatique au dernier conseil municipal.
Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, disiez-vous. Après le Tour de France polluant, il s'est opposé au survol de sa ville par la patrouille de France un certain 14 juillet. Il a dit non aussi au déploiement de la 5G dans sa ville et a créé la polémique concernant les menus temporairement sans viande dans les écoles.
Donner des menus sans viande aux enfants, c'est pas super. Donc oui, c'est un problème.
Si ça peut améliorer le rendement et faire en sorte qu'ils aient plus de temps pour manger. Et...
Si c'est temporaire, on l'accepte. Si ça devait se poursuivre, on l'accepterait beaucoup moins.
Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de la viande tous les jours. Donc c'est même pas une question de Covid, c'est une question d'écologie en fait.
Léa, ça a fait débat à la sortie des écoles, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France Info. Il est en tout cas sur tous les fronts de l'écologie. Vous avez été surprise par ces prises de position ?
Ce sont clairement des déclarations à l'emporte-pièce qui ont pu passer pour des erreurs de communication, mais elles expriment ses convictions. Et il n'entend pas les taire pour rentrer dans des codes politiquement corrects. Il est le maire de Lyon, mais il reste Grégory Doucet, le militant écolo. On l'a vu il y a un mois, en plein confinement, écharpe en bandoulière à la marche pour le climat. Lui ne regrette aucune de ses sorties, bien qu'elles aient fait largement polémique. Il pense que c'est son rôle aussi de crever les abcès pour faire avancer le projet écologique et sociétal des Verts sur l'égalité homme-femme et sur une économie de la sobriété. Encore une fois, il ne va pas brider sa parole pour rentrer dans le moule.
Au-delà des mots qui fâchent, quelle est son image auprès de la population locale ?
Il y a un point sur lequel il y a consensus. Il a été très réactif sur le plan sanitaire en ouvrant le premier méga-centre de dépistage, le premier vaccinodrome de France aussi. Ça, la santé, ce n'est pas un sujet sur lequel il fait polémique ou il ne fait pas de politique sur ce sujet. Sinon, son image, elle est évidemment variable suivant les points de vue. Alors, il y a une part de stupéfaction sur sa désinvolture, parfois de l'amusement ou de la raillerie sur l'écriture inclusive ou le budget genré. Parfois de l'agacement aussi sur l'importance du vélo, sur la chasse à la voiture ou sur le discours pro-végétarien. Mais il y a aussi une part de respect un peu sur le thème. Et après tout, pourquoi pas ? Il y a bien une partie très défavorable de l'opinion qui va les traiter de Khmer Vert. Je parle à la fois de lui et de Bruno Bernard. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui attendent de voir où ça va les mener, ces programmes très radicaux sur la piétonnisation, sur le vélo, sur les déchets, le logement, l'alimentation. Beaucoup de gens qui se disent que ça vaut peut-être le coup d'essayer. Il y a un petit côté, ils n'ont peur de rien, qui séduit aussi, même si leurs opposants leur font des procès en incompétence ou en prosélytisme.
Tout est vert, 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 tout est vert dans ce dans l'herbe, tout est vert.
Les Lyonnais s'en souviennent peut-être. C'était le 14 décembre, certains ont pu observer dans le ciel une grande traînée verte magnifique. Rien à voir avec la politique. Il s'agissait d'une grosse étoile filante, a rassuré le journal Le Progrès dans un article. On appelle ça un bolide, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une étoile filante plus brillante que la planète la plus brillante du ciel, qui est Vénus. Toute étoile filante plus brillante que Vénus est nommée bolide. Les vers ont aussi déboulé tels des bolides dans le paysage politique lyonnais, car à l'image de Lyon, c'est toute la métropole qui s'est donné une couleur verte et ça change beaucoup de choses. Bonjour Anne Vidali.
Bonjour.
Vous avez écrit pour les Échos Week-end un long article sur la mainmise des Verts dans la capitale des Gaules. Et vous me le disiez quand on en parlait avant d'enregistrer cette émission, la conquête de la métropole a été un facteur clé pour mettre en œuvre les nouvelles ambitions des écologistes.
La métropole à Lyon joue un rôle absolument unique en France, puisque c'est la seule en France qui conjugue les responsabilités du département et de la communauté de communes. Donc, elle est investie de pouvoirs très importants. Et par ailleurs, cette année, pour la première fois, l'équipe a été élue au suffrage universel direct. Donc, Bruno Bernard, le président de la métropole, est élu au même titre que Grégory Doucet, le maire de Lyon.
Bruno Bernard, effectivement, a été élu pour prendre les rênes de cette métropole. Il est beaucoup plus discret, d'ailleurs, que son voisin d'Europe Écologie Les Verts.
Oui, alors, il est plus discret et il est surtout moins connu, même si, comme on le disait, la métropole de Lyon a énormément de pouvoir et plus que la mairie, en fait. Celui qui incarne Lyon, celui qui incarne la prise de pouvoir des Verts à Lyon, c'est vraiment Grégory Doucet. C'est lui qui a été mis en avant par les médias. Et c'est assez paradoxal, en fait, parce que Bruno Bernard, non seulement, vous le disiez aussi, a été élu au suffrage universel, mais il est plus politique, en fait, que Grégory Doucet, qui est venu assez tardivement à la politique. Bruno Bernard a fait partie du Parti socialiste d'abord, puis il est passé chez Les Verts en 2002. Ensuite, il a été secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a déjà un parcours politique.
Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait, tous les deux, depuis leur accession au pouvoir? Est-ce qu'ils ont déjà changé l'image de la métropole?
Alors, je pense qu'ils ont changé l'image médiatique de la métropole. La preuve, ce dossier que les Échos Week-end consacrent à Lyon. On a beaucoup parlé de Lyon, donc ça a vraiment placé Lyon sous les feux de l'actualité. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui a évolué. Par ailleurs, c'est un peu court encore pour qu'ils changent les choses en profondeur. En revanche, quand on se promène, comme moi je l'ai fait, dans les rues de Lyon, on voit bien qu'il y a des petites choses qui ont changé. Il y a des vergers urbains dans chaque arrondissement. Les abords d'un certain nombre d'écoles ont été piétonnisés pour les sécuriser. Il y a davantage de pistes de vélo et puis il y a un petit peu d'écriture inclusive aussi dans les écrits de la mairie de Lyon aujourd'hui. Voilà, bah, tout ça, c'est un peu cosmétique, entre guillemets, parce que les changements en profondeur sont encore à venir. La crise du Covid n'a pas arrangé les choses non plus. Ça a ralenti un petit peu le programme et les projets et la mise en œuvre de ces projets.
Mais c'est vrai qu'ils sont là depuis seulement 300 jours. En 300 jours, on ne peut pas tout faire, changer les habitudes. Mais ils ont des plans pour la métropole?
Ah oui, ils ont des plans pour Lyon et pour la métropole. Alors, il y a déjà eu un certain nombre d'annonces. D'abord, Grégory Doucet a décrété le 25 mars l'urgence climatique et ça a été suivi 3 jours plus tard par la présentation du plan pluriannuel d'investissement de la ville de Lyon. Ça représente quand même 1,25 milliard d'euros, donc c'est important. Et un tiers de ce budget est destiné à faire de Lyon, je cite, la capitale française de la transition énergétique. Donc, il est prévu davantage de végétalisation, il est prévu la rénovation énergétique d'un certain nombre de bâtiments publics, à commencer par les écoles. La presqu'île de Lyon va être intégralement rendue aux piétons à la fin de 2022. Voilà, il y a un certain nombre de projets dans les tuyaux, entre guillemets. Et la métropole, de son côté, a annoncé un programme d'investissement pour la période 2021-2026, qui représente 3,6 milliards d'euros, donc ça fait aussi beaucoup d'argent. Et il est prévu plus de pistes cyclables, il est prévu d'exclure les véhicules diesel à partir de 2026. La métropole prévoit également de construire 25 km de lignes de tramway à l'est de l'agglomération. Elle prévoit la construction de logements sociaux. Voilà, donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont lancées et d'autres à venir.
Être maire, c'est veiller à adapter notre ville au défi du moment, en piétonnisant des rues, plus sereines pour les familles, plus accessibles pour soutenir nos commerces de proximité, en faisant de plus en plus de place à la nature, avec des vergers dans chaque arrondissement, avec des cours d'école végétalisés, en assurant la tranquillité publique et la sécurité de tous, en facilitant les mobilités plus durables, plus vertueuses, comme la marche, le vélo, les transports en commun.
On vient d'entendre un Grégory Doucet présenter ses vœux en début d'année aux Lyonnais et aux Lyonnaises. On a parlé de ses projets d'investissement, hein. Les fermes urbaines, la forêt urbaine, les micro-implantations florales. Une bonne nouvelle, hein, pour les abeilles, souvent heureuses en ville, il faut le rappeler. Il y a aussi dans la métropole un projet de téléphérique à l'ouest, sans oublier les menus bio dans les cantines. Grégory Doucet, il est parisien d'origine, mais Anne, ce que vous écrivez dans les Échos Week-ends, c'est qu'il est plutôt en phase avec les attentes des cadres lyonnais.
Je crois qu'on peut même dire que Grégory Doucet présente le profil type de ce qu'on appelle les néo-lyonnais, ces personnes qui sont venues s'installer à Lyon depuis 10 ou 20 ans. Donc comme eux, il fait partie de la famille de ce qu'on appelle les cadres et professions intellectuelles supérieures, qui, d'après l'INSEE, est la seule à progresser beaucoup à Lyon depuis 10 ans. Il est, comme beaucoup de Lyonnais, comme beaucoup de ces néo-lyonnais, de ces nouveaux lyonnais, il a fait des études supérieures et il travaille dans le secteur des services, du commerce et des transports, puisqu'il est arrivé à Lyon en 2009 pour travailler pour Handicap International et prendre en charge la responsabilité des opérations en Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, il leur ressemble à ces néo-lyonnais, puis comme eux, il fait du vélo également. Et d'ailleurs, ce sont ces évolutions démographiques, marquées par la montée en puissance de ces catégories très diplômées, qui expliquent en partie le fait que Lyon ait basculé du côté des Verts aux dernières élections municipales.
Il est même parvenu, et ça c'est intéressant, à s'attirer les faveurs des catholiques, qui pèsent un poids important dans le département.
Oui, Lyon est une ville qui traditionnellement est imprégnée de traditions catholiques. C'est une ville où les réseaux catholiques sont encore puissants. Ils l'ont été davantage, mais ils le sont encore, notamment dans les milieux d'affaires. Alors Grégory Doucet, c'est lui plutôt les cathos de gauche, qui se retrouve tout à fait dans sa volonté de davantage de mixité sociale, dans sa volonté aussi de transition écologique. Grégory Doucet cite très souvent l'encyclopédie du pape, le Laudato Si, qui justement pourfend la course à la croissance et qui dénonce l'épuisement de la planète. Donc, il va tout à fait dans le sens des catholiques de ce point de vue-là. En revanche, je pense qu'il séduit beaucoup moins les cathos de droite et certains lui ont notamment tenu rigueur de son absence le 8 septembre dernier à la cérémonie du vœu des échevins, qui est une cérémonie extrêmement importante à Lyon, puisque c'est le jour où la ville rend hommage, rend grâce à la Vierge pour avoir protégé la cité de la peste en 1643. Et Grégory Doucet a refusé de participer à la cérémonie à la basilique de Fourvière, au cours de laquelle, traditionnellement, le maire remet un écu à l'archevêque de la ville. Et son absence n'est pas bien passée dans certains milieux catholiques.
C'était samedi le 8 septembre, une grande date pour tous les croyants lyonnais. Ce jour-là, depuis 319 ans, à l'occasion de la fête de la Nativité de la Vierge Marie, Lyon renouvelle fidèlement le vœu des échevins de la ville. De nombreuses notabilités et des délégués paroissiaux viennent donc en cortège, cierge à la main, assister à la grande messe du vœu.
Le maire de Lyon n'est donc pas venu à cette célébration très ancienne, racontée ici dans cette archive de l'INA. Il s'en était expliqué sur BFM Lyon.
Alors la cérémonie en tant que telle que vous venez de décrire, je n'y assisterai pas. En revanche, j'ai souhaité, et j'ai eu Monseigneur Dubos pas plus tard qu'hier pour caler les derniers détails, j'ai souhaité pouvoir m'adresser aux croyants, aux catholiques qui seront présents avant à la cérémonie, parce qu'il me semble nécessaire, même indispensable, qu'il y ait un dialogue. Voilà. Dans mon application, dans ma compréhension, dans mon interprétation des règles de laïcité, je laisse bien sûr les croyants réaliser cette cérémonie. En revanche, il m'importe d'être dans le dialogue avec chaque communauté religieuse. C'est pour ça que je prendrai la parole à l'issue de la cérémonie.
La métropole de Lyon, c'est un PIB de près de 75 milliards d'euros. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est plus que celui du Sri Lanka ou du Kenya, pour dire. Là, on est avec une population d'1,5 million d'habitants. C'est important. C'est un taux de chômage aussi qui est plus bas que dans le reste du pays. Comment est-ce que l'arrivée de ce couple improbable a été perçue par les milieux d'affaires ?
Alors, je pense que l'expression qui résume le mieux la perception des milieux d'affaires, c'est une expression qu'un chef d'entreprise a prononcée devant moi. Il m'a dit « Nous sommes dans une expectative inquiète ». Donc, je pense que c'est assez juste. Ils sont inquiets. Ils s'interrogent sur l'avenir parce que ce qui, jusqu'à présent, a fait vraiment la force de Lyon, ce qui est vraiment inscrit dans son ADN, c'est une sorte d'alliance entre le pouvoir politique et le pouvoir économique au service de l'attractivité de la ville et de la métropole. Alors, le maire précédent, Gérard Collomb, a beaucoup fait pour développer cette attractivité, à tel point d'ailleurs que pendant des années, les élus lyonnais étaient invités en France, dans différentes régions, pour expliquer les recettes de leur marketing territorial, qui marchait très bien, puisque ça fait venir des investissements, ça fait venir des entreprises et des emplois à Lyon. Et ce que redoutent les milieux d'affaires, c'est que cette alliance soit remise en question, puisque les Verts, en tout cas, n'ont pas fait le mystère d'une chose, c'est que l'attractivité du territoire n'est absolument pas leur priorité. Pour eux, cette attractivité, elle présente des risques et elle a des retombées négatives de leur point de vue, puisque ça fait venir davantage d'habitants et qui dit plus d'habitants dit aussi plus de pollution et davantage de tensions sur le marché du logement, sans forcément d'ailleurs faire beaucoup reculer la pauvreté et le chômage, que montrent les chiffres, alors même si le chômage est très faible à Lyon.
À Lyon, nous avons tous les atouts pour que la ville soit attractive et prospère pour ses habitantes et ses habitants, ses commerçants et ses entreprises, une ville où il est bon de grandir, à hauteur d'enfant, une ville agréable à vivre et hospitalière.
Grégory Doucet parlait dans ses vœux d'une ville attractive et prospère aussi pour les commerçants et les entreprises, en réponse peut-être à cette expectative inquiète dont vous nous parliez, Anne. Mais ce que vous disent aussi les chefs d'entreprise que vous avez rencontrés, c'est qu'ils ont perdu le contact avec les élus de la majorité.
Oui, alors ce dont ils se plaignent beaucoup, c'est de ne plus avoir une sorte de ligne directe privilégiée avec les élus. Et Grégory Doucet le dit lui-même, enfin c'est ce qu'il m'a dit et je l'ai écrit dans cet article pour les éco-weekends. Il dit, auparavant, les milieux d'affaires avaient l'habitude d'avoir les numéros de portable de tous les élus et ils ne les ont plus. Et effectivement, les intéressés le déplorent. Donc, ce sont des contacts à renouer, qui vont être renoués.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore parler d'un divorce, hein, c'est un peu fort.
Non, c'est un peu fort. Et puis, de toute façon, ce divorce, personne ne le souhaite à lui.
Parmi les gens que vous avez rencontrés, il y a un témoignage moi, que j'ai trouvé intéressant, c'est celui de Moran Rehuet. De retour de Chine, il a créé une entreprise, Mersense, c'est une application et une box qui permet aux utilisateurs d'analyser la qualité de leur environnement, de leur alimentation. C'est a priori un entrepreneur sensible aux questions environnementales et pourtant, dans ce qu'il vous a dit, il semble déçu ou en tout cas déconcerté par ce qu'il voit.
Oui, il est un peu inquiet. Alors, Moran Rehuet est chef d'entreprise, comme vous le disiez très justement, il a une longue expérience de l'expatriation, il a vécu 15 ans à l'étranger, notamment en Asie, mais il est aussi conseiller du commerce extérieur. Donc, il a une vision qui dépasse celle de son entreprise, de ses propres intérêts. Alors, même si son activité relève du business vert, entre guillemets, donc est en phase avec ce nouveau climat lyonnais, il est très sensible aussi aux souhaits de ses salariés, puisqu'il emploie des salariés, je les ai rencontrés, je suis allée dans son entreprise, donc ils sont manifestement tous très jeunes et ils ont une vraie sensibilité écolo. Donc tout ça, il le sent bien. Mais par ailleurs, ce qui l'inquiète aussi, c'est que, comme on l'évoquait tout à l'heure, ce climat, ambiance, cet écosystème lyonnais qui marchait très bien, il craint que cette mécanique vertueuse, quelque part, ne s'enraye. Parce que si les entreprises commencent ou si les investisseurs commencent à bouder Lyon, ça peut mettre en danger des pans entiers d'activité et ce sera mauvais pour tout le monde.
En 2019, Lyon avait été sélectionné par l'éditeur de guide de voyage Lonely Planet parmi les 10 destinations européennes à découvrir, avec son centre historique classé à l'UNESCO et sa tradition culinaire qui fait oublier les bouchons sur les routes autour de la ville. Le verdissement de la ville ne devrait pas détourner les touristes. En revanche, certains s'inquiètent pour l'attractivité auprès des investisseurs. Anne Vidali rappelait qu'en 2019, 114 nouvelles entreprises étaient arrivées dans la métropole avec la promesse de 2500 nouveaux postes. Mais alors que l'attractivité de la France a résisté à la crise du Covid, selon Business France, celle de Lyon résistera-t-elle à ce changement de tonalité ? Léa Delpont, vous êtes un correspondante des Échos dans le département, je le rappelle. Ce risque de déclassement économique, vous l'avez ressenti dans vos reportages pour les Échos ?
C'est la petite musique qu'on entendait beaucoup pendant la campagne et que l'opposition, à la ville comme à la métropole, continue de jouer. Étienne Blanc, à la mairie, accuse Grégory Doucet d'imposer le concept de la décroissance. À la métropole, le groupe de l'ancien président David Kimmelfeld voit dans la révision du PLU, je cite, « un outil pour limiter la création d'emplois ». Avec une vision anti-entreprise. Alors, il est vrai que sur le programme, les priorités économiques des Verts vont vers l'insertion, les circuits courts, le recyclage, la coopération des territoires, beaucoup moins vers l'attractivité à tout crin, mais ils l'assument. Ils veulent des emplois et des logements pour les Lyonnais d'abord. Bruno Bernard, qui est lui-même chef d'entreprise, faut pas l'oublier, répète que les bons chiffres de la création d'emplois dans la métropole ne font en réalité pas baisser le chômage et que ces emplois ne profitent pas aux Lyonnais. Bon, à ma connaissance, aucune entreprise n'a quitté Lyon, hein. Mais est-ce qu'elles seront aussi nombreuses à venir dans les prochaines années? L'agence économique, la Derli, affichait une centaine de prises par an. La métropole vient de lui rogner 5% de son budget. Ça aussi, c'est un signal qui inquiète un peu les milieux économiques. Du côté des patrons, je dirais que pour l'instant, il y a un effort de collaboration. Les promoteurs immobiliers font ce qu'il faut pour amender leurs projets, un peu moins haut, un peu plus vert, un peu plus social, un peu plus mixte. Les contacts avec les industriels ne sont pas rompus. La métropole a récemment noué une alliance avec une dizaine d'entreprises de la vallée de la chimie dans un consortium pour l'hydrogène vert. Et un gros chimiste de la vallée me disait récemment, je le cite, « La question a clairement été posée de savoir si les pouvoirs publics avaient envie qu'on reste là. La réponse est oui, il y a une envie de cohabiter. » Voilà ce qu'il disait. Les industriels sont prêts à se transformer, à condition qu'on leur laisse le temps, c'est-à-dire pas 3 ou 5 ans, là ce serait une déclaration de guerre. Mais en attendant, il estime que les discussions sont ouvertes et qu'il est tout à fait possible que chacun trouve sa place. Bon, bien sûr, c'est la version optimiste.
Est-ce que Grégory Doucet est entré dans le costume de maire et est-ce qu'il souhaite s'inscrire dans la durée à Lyon?
Rien n'est moins certain. Déjà, dans les préparatifs des municipales 2020, il avait longtemps cherché, en tant que responsable EELV local, une candidature féminine pour la ville de Lyon. C'était vraiment son projet. Ça n'avait pas marché et sa candidature à lui était plutôt un choix par défaut à ses yeux. Et je ne serais pas surprise qu'il cherche à opérer un passage de relais à une femme derrière lui. Mais qu'il souhaite inscrire le pouvoir écologiste dans la durée à Lyon, ça c'est sûr, car il sait bien qu'en un mandat, on ne peut pas faire grand-chose.
Les élections présidentielles en France, on sait, elles approchent, hein, certains commencent à s'agiter. Chez les Verts, Éric Jadot semble en bonne voie, même si rien n'est acté, mais d'autres ont aussi des ambitions. On pense au maire de Grenoble, Éric Piolle. Qu'en est-il de Grégory Doucet? Quelles sont ses ambitions? À quoi est-ce qu'il pense, lui, en se rasant?
Alors, il pense à la présidentielle. Oui, forcément, mais pas pour lui. D'ailleurs, la tête d'affiche lui importe assez peu pour l'instant. Il disait récemment, que ce soit pour les régionales ou la présidentielle, je crois en la méthode qui consiste à monter une équipe d'abord. C'est avec cette méthode que les Verts ont gagné Lyon et sa métropole, et pas avec des têtes d'affiche, lui et Bruno Bernard étant des inconnus. Mais dans cette équipe de la présidentielle qu'il appelle de ses voeux, il estime avoir son rôle à jouer. Et sa mission, c'est de réussir à Lyon, de montrer qu'une ville écolo, ça fonctionne et que ça fonctionne différemment. Dans le débat national, il se dit prêt à prendre sa part sur 2 dossiers notamment, au-delà de l'exemple lyonnais, l'économie et la gouvernance. La gouvernance avec aussi ses corollaires, la nation, les valeurs de la République. Pour lui, c'est intéressant, ce sont des sujets sur lesquels on n'entend pas assez les Verts et sur lesquels ils doivent se positionner. En économie notamment, pour qu'on arrête de les caricaturer en les réduisant aux AMAP. Donc il veut donner l'exemple à Lyon, avec son mandat à 1,25 milliard d'euros, avec une charte des achats responsables, avec un budget genré. Il a un peu un rôle de poisson pilote en fait.
Un poisson pilote vert. Voilà qui aurait plu à Gérard Gray.
Dans la mer, un poisson vert tourne lentement.
Merci à Anne Vidali et à Léa Delpont pour cette visite d'une métropole de Lyon plus verte. Vous pouvez les retrouver dans le très beau numéro des Échos Week-end. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.